Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour une nouvelle saison de Par les temps qui courent. Chaque soir, un entretien d'une heure avec les artistes qui font l'actualité culturelle. Ce soir, avec Brecht Evans.
Un tango, une danse, un baiser.
C'est du bouddha, pépété, pépé.
Par les temps qui courent.
Ça y est, tu vas te voir.
Marie Richeux.
Et c'est que le moment dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Une légende dit que les villes avalent les êtres trop sensibles et trop libres et les recrachent quand bon leur semble, métamorphosés en créatures méconnaissables. Cette légende veut aussi que la nuit et les lieux de fête soient des trous noirs dans lesquels le temps perd toute la linéarité à laquelle on veut absolument l'astreindre par ailleurs. Tout s'y passe simultanément dans un maelstrom qu'il serait idiot de vouloir aplanir. Dans votre dernier livre, Brecht Evans, dit-on encore bande dessinée, un homme passe une dernière nuit à Paris avant de rejoindre sa belle à Berlin. Aucun de ses amis n'est disponible, il s'en remet donc à la fièvre et au hasard. Son errance croise celle d'autres personnages, plus ou moins solides sur leurs deux pieds, mais que l'on remet souvent debout à la force des histoires qu'on leur raconte. Ce livre, qui se finit dans la brume, s'appelle Les Rigoles, il est publié aux éditions Actes Sud. Il est très beau. Il sort en cette rentrée et il vous lance dans une tournée impressionnante des librairies en France. Bonsoir à vous, Brecht Evans, merci beaucoup d'être là.
Merci et merci beaucoup pour résumer le livre parce que j'ai pas encore complètement maîtrisé le synopsis. Donc vous l'avez très bien fait.
Ok, mais on va essayer quand même de le développer puis de complètement achever le synopsis que je viens
d'écrire. On a une heure, je crois, on a pas besoin d'être trop concis.
On va complètement pouvoir développer. D'ailleurs, on va commencer par pouvoir développer cette question. Je dis, est-ce qu'on dit encore bande dessinée si on essaye de... Je sais pas, se poser des questions sur le livre très épais que j'ai devant moi. Est-ce que ça vous intéresse de savoir si c'est une BD ou pas?
Peut-être que même roman n'est pas un super nom pour un roman. Son propre raison bizarre pour laquelle on appelle des livres comme ça. Les romans graphiques, ça a été inventé pour donner une excuse aux adultes de lire de la BD. Moi, je suis pas contre. Si ça leur met à l'aise, je suis pour. Ce serait dommage qu'ils osent pas lire mon livre dans le métro parce que ça serait une BD.
Donc pour vous, c'est une BD?
J'ai tendance à l'appeler BD. Mais si je vais appeler quelque chose roman graphique, ça serait celle-ci plus que celle d'avant.
Parce qu'il s'affranchit plus encore, ce livre-là, de ce qu'on pourrait appeler une histoire, voire des codes de la bande dessinée?
Ouais, possiblement. Je crois peut-être bêtement parce qu'il est plus gros. Et bande dessinée, ça vient des... on est en France, vous savez d'où vient ce terme. Je fais pas ma BD en bande. Je fais ma BD dans des directions très bizarres sur la page.
Est-ce que pourquoi la page, ça reste quand même un espace pour vous qui veut dire quelque chose, par contre? La bande, non. Les bulles, peut-être pas, mais la page, oui.
Oui, j'essaie de le voir toujours comme un espace, un rectangle sur lequel je peux vous indiquer dans quelle direction l'œil doit voyager. On n'est pas obligé de garder tout dans des petits rectangles, dans le grand rectangle.
Pourtant, c'est quand même quelque chose qui vous a formé, la bande dessinée classique, comme on pourrait dire, Brecht Evans, ou pas du tout?
Complètement. J'ai toujours fait de la BD et j'ai lu... J'ai lu tout, jusqu'à un certain point, jusqu'à que je suis devenu un peu snob à l'école d'art, je lisais quand même tout et n'importe quoi. J'attendais chaque fois avec grande anticipation le prochain Landfest ou voilà.
Ça vous a rendu snob l'école d'art?
J'ai dit ça comme ça parce que j'ai... ce qui est peut-être une mauvaise habitude de pas lire... certains BD parce que l'image me repousse. Et c'est dommage, peut-être. Genre, il y a peut-être quelque chose à apprendre si pendant 2 secondes, que j'ignorerais ça.
Qu'est-ce que vous auriez à apprendre de bandes dessinées dont les dessins vous semblent pas beaux, pas bien finis ou juste pas à votre goût?
C'est juste, on voit assez vite si graphiquement on a utilisé vraiment toutes les possibilités. Si on, et je veux dire que le dessin BD est très répétitif souvent. Et ça peut le rendre facile à lire, et du coup ça c'est pas mauvais. Mais je crois que dans mes livres, j'essaie quand même, même quand par exemple juste des personnages se répètent sur la même page, ils se ressemblent pas beaucoup, ils changent beaucoup. Quand ils disent un truc un peu, un certain genre de truc, ils prennent un air très éphémère. Quand ils disent un autre truc, ils peuvent devenir très solides, ou leurs membres, leur visage, tout ça fluctue un peu plus.
Vous rendez beaucoup graphiquement l'évolution des états des personnages. Par exemple, en effet, quelqu'un qui va être très bavard ou qui va concentrer sa présence au monde beaucoup sur le discours, sur ce qu'il raconte, ne peut être d'un seul coup composé que par des lettres et uniquement par du verbe ou par des phrases. Et puis quand il devient plus évanescent ou plus troublé, il peut devenir juste un bref trait d'aquarelle. Ça, c'est quelque chose qui vient au fil comme ça de l'écriture ou de la composition des livres que vous faites.
Ouais. Ça, c'est pas très programmé. Avant que je dessine une page, là, on parle de page de dialogue. Je sais ce que c'est la dialogue, mais le dessin, je l'improvise à chaque fois quand je sais quelle phrase il dit. Et oui, c'est vrai que évanescent, c'est ça le mot que tu disais. C'est ils peuvent devenir très insubstantiels quand ils se sentent insubstantiels.
Qu'est-ce qui est programmé alors, lorsque vous travaillez?
En fait, pas grand-chose, finalement. Cette fois, j'ai essayé de faire beaucoup plus de travail de scénario qu'avant. Je sais pas, j'ai... ce qui est compliqué avec une BD, parce que une fois qu'on a fait une énorme peinture, c'est difficile de le rédiger. Une fois qu'on a décidé qu'un personnage s'habille d'une certaine façon, on peut pas tout à fait aller retoucher ça sur partout. Donc cette fois, j'avais une sorte de storyboard sur moi tout le temps, et quand je finissais une page, j'intégrais la page dans ce storyboard, mais le reste restait des croquis et juste des textes. Et toute la dernière année du travail, j'allais à peine chez le boulanger sans porter 5 kilos de storyboard sur moi. C'était assez chiant en soi, pratiquement. Et c'était juste au cas où j'avais envie de m'asseoir sur une terrasse, il fallait avoir les 5 kilos de papier sur moi pour pouvoir tout relire.
C'est lourd, un projet de bande dessinée.
Celle-ci a été un gros œuf à pondre.
Vous avez travaillé pendant combien de temps pour Les Rigoles, et est-ce que cette fois-ci vous avez travaillé dans la continuité? Je pense à un autre album où vous aviez fait une pause dans la composition. Parfois ce travail-là, il est un petit peu plus segmenté. Pour Les Rigoles, ça s'est passé comment, Brecht Evans?
Normalement, je ferais ça d'un trait. Je ferais pas une grosse pause ou sabbatique pendant que je fasse un livre. Celle-ci, ça a été 3 ou 4 ans de travail. Ça correspond à tout le temps que j'habite à Paris. C'est peut-être pour ça que le livre est plus bavard que celle d'avant. Et le pause que tu as dit, ça c'était pas très volontaire. C'est pendant que je faisais le dernier livre Panthère, j'ai eu une grande épisode bipolaire qui a duré un an ou peut-être un an et demi, et qui a été un grand inspiration pour ce livre, pour disons 2/3 du livre. Mais donc normalement je fais ça d'un trait, on dit, genre. Ça veut dire que pendant 3 ans, je sais ce qui est le plus important dans ma vie et que tout le reste est secondaire à ça.
Et ça veut dire que vous l'avez tout le temps en tête, tout le monde qui est déployé, les univers, les personnages, dans vraiment cet album foisonnant qu'est Les Rigoles, habite tout le temps votre tête?
Oui, et avec celle-ci, c'était très agréable parce que c'est y a différents genres de livres. Si t'as un livre qui est autant concept, et qui est très déligné, limité. Je veux pas dire ça nécessairement, mais Panthère était.
Panthère, c'est un autre
conceptuel.
Album.
On sortait pas du même chambre à coucher. Et celle-ci, c'est un livre très réceptacle où presque tout que je rencontre dans la rue a possiblement sa place dedans. Et peut-être tu sais que c'est génial si même si chaque truc que tu vis a l'air d'être utile pour quelque chose. Si même chaque humiliation que tu vis, tu peux peut-être en gagner en petite scène pas mal.
Ça veut dire que ça change beaucoup aussi l'expérience de la vie ?
Ouais, probablement. Du coup, j'ai hâte de voir parce que ça fait, on va dire, 4 ans que je sais donc pas ce que c'est de pas être en train de faire un BD. Donc j'ai hâte de voir ce que ça serait juste être quelque part et regarder autour.
Sans savoir qu'on va l'utiliser tout à l'heure à la table de travail.
Ouais, mais c'est peut-être pas réaliste comme idée parce que j'ai pas eu beaucoup de vacances là, mais j'ai eu l'occasion deux après-midi d'être sur une terrasse sans un projet et j'ai quand même automatiquement sorti mon carnet commencé quelque chose possiblement. Donc je suis pas sûr que je suis complètement capable de
vivre sans dessiner.
Ouais, de sortir sans carnet en tout cas.
C'est un album, Les Rigoles, où il est exclusivement question de la nuit, si l'on parle de l'espace-temps. On va écouter le philosophe Michael Fessel en parler un peu.
J'ai essayé de faire de la nuit, ou de décrire la nuit comme un espace d'expérience, comme un espace aussi propre à certaines pensées, des pensées un peu insistantes, des pensées dont nous ne maîtrisons pas le terme. Et j'ai donc essayé de réhabiliter la nuit par rapport à une tradition philosophique, en tout cas une certaine compréhension des lumières, celle qui marque la primauté des idées claires et distinctes du jour, du soleil sur la nuit noire, et en fait de compliquer un peu ce rapport pour montrer que la nuit, elle est habitable parce qu'elle est un monde. Elle n'est pas nécessairement l'absence de monde, elle n'est pas nécessairement liée à cette angoisse que non seulement nous pouvons expérimenter dans certaines expériences d'insomnie, mais aussi que le mot nuit souvent évoque avec toute sa charge sémantique un peu ténébreuse. C'est le cas de le dire, il y a dans la nuit non seulement des possibilités d'expérimenter ce que le jour ne permet pas, mais aussi des possibilités de penser et je dirais même de voir paradoxalement des choses ou des lumières que le jour masque.
Finalement, la nuit comme un espace sinon plus clair, en tout cas aussi clair que le jour, dans la voix de Michael Fessel. Alors Brecht Evans, finalement, la bande dessinée commence clairement. Ce sera la dernière nuit d'un homme à Paris, avant qu'il ne quitte son appartement. Il est au milieu des cartons et il appelle tous ses potes. Et tous ses potes lui disent qu'ils ont vraiment autre chose à faire que de passer la dernière nuit avec lui. Ça s'est imposé comment à vous, l'idée qu'il y aurait une unité d'espace-temps qui serait la dernière nuit d'un homme dans une ville ?
Il faut il me fallait quand même à moins déligner ça d'une façon et aussi je crois que j'ai tendance à raconter sans chapitre, sans interruption, tendance à écrire une histoire où ça continue pendant longtemps. On saute entre trois personnages. Et ouais, pour avoir une unité quand même, en fait, j'avais pas besoin, c'était possible de tout foutre dans la même nuit, donc j'ai pas même considéré de faire autre chose que ça, ou de montrer ce qui passe dans leur vie avant ou après.
Et en même temps, ça vous permettait de parler de la nuit, de parler de cet état-là, de cet espace-là. C'est un espace qui vous dit quoi à vous ?
Déjà, c'est... presque mon seul passe-temps à part être à mon bureau, à part écrire, c'est sortir forcément. Presque tous les contextes dans lesquels je vois des gens, c'est ça, forcément. J'ai pas tenu un vrai job depuis très très longtemps. Et il y avait un petit envie aussi de faire un livre grand frère à un livre que j'ai fait il y a maintenant, qu'est-ce qu'on va dire, presque 10 ans, je crois. Les Noceurs. Qui était une sorte de rêve de la nuit, qui était fait quand j'étais, quand j'avais 22 ans à peu près, et où j'écrivais donc des choses que je connaissais pas encore vraiment. Ce qui n'était pas un défaut, parce que ça la rendait un peu conte de fées. Et du coup, ici, il y a pas un règlement de compte, mais comme ce livre des années ont passé, certains gens ont pris pas mal de drogues, sont fatigués beaucoup et font quand même toujours ça.
Ça veut dire qu'il y a plus de réel dans les rigoles que dans les noceurs, que les noceurs vous rêviez la nuit et les rigoles vous l'avez vécu et vous la racontez.
Ouais, je crois quand même. Et ça, c'est pas un jugement sur le vieux livre, c'est mais je crois qu'il y a plus de réel, ouais.
Et c'est mieux ou c'est pas mieux?
Je crois que quelqu'un pourrait avoir envie de lire un conte de fées, donc je trouve ça sympathique aussi de d'écrire éventuellement de quelque chose qu'on connaît pas encore, parce que les rêves et les idées qu'on en a sont très intéressants aussi, ou sont au moins mignons. Donc je vais pas jouer favori, mais quand même je préfère le nouveau. Quand même. L'autre, il avait un pied dans le lycée. Il avait un raisonnement ou un mécanisme. Le petit moteur de cette histoire était popularité, être un petit rejet ou rejeton, ou être le roi de la nuit. Et ici, il y a pas tout à fait ça. Les gens fonctionnent dans des plus petits milieux. Il n'y a pas un chef, il n'y a pas un petit rejeton.
D'ailleurs, ce que vous campez le plus souvent dans les rigoles, ce sont des conversations finalement assez intimes, même si elles ont lieu dans des endroits où il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de bruit, ou alors même dans la route, puisqu'il y a l'habitacle d'un taxi, il y a une table dans une boîte, il y a des toilettes. Finalement, c'est
il y a
comme
toujours
si...
des toilettes. Je ne sais pas pourquoi, mais forcément, ça montre les personnages d'une, quand personne ne les regarde. Et ça a l'air d'être important. Il y a presque toujours une scène toilette dans mes livres.
C'est exactement ce que j'allais dire. C'est comme si vous aviez la possibilité, ou vous donniez la possibilité de regarder vos personnages de très près.
Ouais. Ouais. J'ai tendance à les montrer beaucoup de tête à pied aussi, parce que la façon dont leurs pieds sont posés, ça compte. Là où ils tiennent leurs mains, c'est très important. Ouais, ouais, je veux qu'on se sente très près des personnages, peut-être. Ça, c'est possible que pour ça aussi, j'utilise très peu de cadres, on dit comme ça, des cases. Que quand on voit vraiment un personnage bouger, c'est bien de le voir en silhouette contre blanc, par exemple, de n'apercevoir que leur mouvement et leur position d'épaule.
Ça veut dire que vous en avez beaucoup regardé, des gens réels. Moi, j'ai eu l'impression, en ouvrant ce livre, que vous aviez enregistré la ville, que vous l'aviez enregistré avec vos yeux, enregistré avec vos oreilles, enregistré avec votre corps, enfin, qu'il y avait quelque chose qui s'était imprimé fortement et que vous commenciez à travailler avec ça.
Je suis très content que tu dis ça. Ça, c'est bien l'impression que je voudrais donner. Que ouais, j'allais presque l'oublier, parce que au cours des années, on oublie peut-être beaucoup de ses intentions. Mais je crois que j'ai voulu faire un livre en ville, format poche. Il est gros, mais il est pas si lourd que ça, pour une raison ou autre. Quand je le lève, ça fait comme un peu comme du bois à balsa. On peut le porter avec soi et on aura sur soi un amalgame de villes européennes. D'avoir un monde entre deux cartons, ça c'était vraiment l'intention, la motivation pour ce livre. Ouais.
Ça marche. Et ça marche d'autant plus que quand on l'ouvre, c'est pour ça que j'utilise à dessein le mot enregistré, on l'entend avant toute chose. Peut-être parce que les villes européennes, on les entend et qu'elles font beaucoup de bruit. Si vous essayez de décrire le son de cet album Les Rigoles, Brecht Even, c'est quoi comme son?
Ah tiens, dis donc. Je suppose que ça doit être des musiques. J'ai jamais contemplé ce qu'on entendrait pendant, mais je suppose quand même un peu un boucan tout le temps. on entendrait un petit voix tout près pendant qu'on entendrait une cinquantaine de gens parler. Et on entendrait des glaçons dans des verres, on entendrait des couverts sur des assiettes. Ce serait forcément ça.
C'est drôle que vous disiez n'y avoir jamais pensé, parce que c'est ce qui se passe dans la manière dont vous composez vos pages. En fait, on passe notre temps à voir plein de choses, en même temps qu'on en voit une en particulier. On passe notre temps à entendre plein de conversations, en même temps qu'on en lit une en particulier.
Ouais.
Ça n'est que ça, les rigoles.
Oui, oui, c'est sûr. Ils passent tout le temps des trucs autour. Ça, c'est très important. Parfois poussé assez loin, même avoir un tout petit BD dans la marge, comme qui ne pousse pas la narration, qui a juste un tout petit chapitre à côté qui passe presque inaperçu en noir et blanc à travers deux pages, pendant qu'on sait ceux qui sont les personnages principaux. Il y a tout le temps des autres gens autour. Avec ma façon de faire le début du livre, on tombe sur une terrasse et on voit tout le monde parler. Ou si tu veux, on entend tout le monde parler. Peut-être je suppose que j'évite les verbes qui ne sont pas vraiment...
Visuels.
BD, oui, c'est peut-être qu'automatiquement je dis pas entend, entendre. Je voulais qu'au début, on a l'impression qu'on aurait pu choisir. Il y a 50 conversations qui se passent sur cette terrasse et qu'on aurait pu suivre quiconque est passé une nuit intéressante, mais que voilà, moi je suis le directeur artistique de ça, moi je vais quand même choisir qui vous allez suivre, mais je veux, comme c'est censé être une ville format poche, je veux qu'on a l'impression qu'on aura pu ouvrir un petit porte et qu'il y aurait encore un monde derrière ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut bien faire en BD et qui n'est pas souvent fait en BD, je crois. L'impression qu'on aurait eu droit à descendre un autre couloir encore, qu'on aurait droit à tourner un coin et tomber sur toute autre chose. Et ça, c'était vraiment important.
Comme le permet la ville, hein. D'ailleurs, je disais, le premier personnage qu'on rencontre, au départ, il essaye d'organiser sa dernière nuit, puis ça marche pas du tout, et du coup, il va vraiment se livrer au hasard et à la fièvre des rencontres, et d'une certaine manière, nous, en tant que lecteurs, on doit aussi se livrer au hasard de ce que vous avez décidé qui allait nous arriver. Je voudrais juste qu'on revienne à l'archive qu'on a entendu tout à l'heure de Michael Fessel, qui dit « La nuit, finalement, c'est pas nécessairement le moment où les idées sont les plus noires, les plus obscures, les plus confuses. C'est peut-être aussi un moment où les idées sont autrement plus claires. » Pour vous, la nuit, c'est un moment où les idées sont communs.
Il peut y avoir une grande concentration. Si t'es quelque part où la musique est trop forte pour parler... et qu'il est assez... pourtant, ça peut être un moment où tu peux finalement organiser tes pensées de seconde, au lieu d'avoir des petites activités. C'est très classique pour les artistes, mais je bosse aussi beaucoup la nuit.
Vous cherchez quoi ?
Mon manteau, parce qu'effectivement, il fait 12 degrés ici. Et je ne sais pas où je l'ai mis. Ça, c'est mon moment spécial, juste très... entendre quelqu'un mettre son manteau. Là, dans le livre, c'est important que ce soit la nuit. En tout cas, c'est que comme ça que j'aurais pu l'écrire, parce que tout le monde a un moment pour chercher son plaisir spécifiquement, et c'est la seule raison pour laquelle ils sont là. Et ils arrivent pas trop, à moins au début, ils ont tous des gros obstacles pour le passer bien. Et c'est pour ça aussi que c'est important qu'on voit tout le temps vraiment la ville étincelée autour, qu'on a l'impression que toi, lecteur, tu pourrais saliver sur toutes les possibilités de cette ville et que tu voudrais les indiquer au personnage. Derrière toi, là, ou à gauche, maintenant, il y aura sûrement quelque chose.
Ça veut dire que la ville, elle fait des fausses promesses à vos personnages ? Elle leur laisse imaginer des lumières, de la jouissance, du plaisir, et finalement ne leur donne pas accès ?
Ben, il y a trois personnages pour pouvoir varier là-dessus. Parce qu'il y en a un qui ne voit pas du tout ce qui se passe autour. Il y a un qui commence le livre en dépression. Et ça, c'est c'est important de là aussi de montrer la magique ville autour, parce que ça rend que plus frustrant que lui il soit enfermé dans sa tête et qu'on est juste dans une petite cercle intérieure. Et puis il y a l'autre dont tu parlais déjà, celle dont tous les amis ont des excuses pour pas sortir avec lui. Ce sont tous ses amis de sa nouvelle vie. Il va tomber sur un ami de sa vieille vie. Lui, il a une super bonne capacité de profiter, mais il est hanté par. Il n'échappe pas à des petites erreurs qu'il a fait dans le passé, qui viennent tout le temps lui faire trébucher.
Et le troisième ?
Le troisième, la fille, elle a en tout cas l'air d'avoir tous les outils pour mais vraiment être la reine de la fête, mais elle est retenue par ses amis et sa sœur, qui, une sorte de cordon autour d'elle, des gens qui veulent bien qu'elle se sente bien, mais qui ne veulent pas qu'elle se sente trop, trop, trop bien non plus, ou qui ne veulent pas qu'elle teste un peu trop sa capacité, là, que ses amis mettent trop les mains sur elle, jusqu'à un point où ça prend quelque chose de sinistre, tant de gens tellement soucieux autour.
Et protecteur, d'une certaine manière, c'est un petit groupe qui ne veut pas qu'elle soit trop libre. Et vous écrivez, Brecht Evans, que les gens trop libres, la ville, en tout cas votre livre, ne sait pas trop quoi en faire. On a plus d'habileté à faire avec les gens ordinaires. C'est un peu ça que portent aussi les rigoles.
Le truc cool avec la fiction, c'est que tu peux faire dire ce que tu veux au personnage et toi, tu n'as pas la responsabilité d'y croire.
Tout à fait, mais c'est quand même écrit.
Ouais. C'est intéressant. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais on dit pas mal de vacheries dans ce livre duquel je me distancierais bien. Et cette phrase que tu cites, il est quoi déjà ? Les gens ordinaires ne savent pas quoi faire des gens extraordinaires. La personne qui dit ça serait le genre de personne à dire ça. Mais je crois que le livre insinue plutôt que les gens extraordinaires ne vont pas nécessairement ensemble faire un truc mieux que ce qui existe. Les fous ne vont pas s'aider entre eux, je crois. Et peut-être pendant des petits moments, mais probablement... c'est les gens, en tout cas mentalement troublés, ou si troublés selon la norme, les gens maniaques, ils vont pas créer une utopie ensemble.
Ouais, on peut prendre le périph' là, ça ira peut-être mieux, non ?
Ah non, il bouge pas.
Bon, alors,
il bouge pas,
allons-y.
Il bouge pas fort. Sinon, ça aurait été un bonheur, j'adore le périph', mais vaut mieux les maréchaux là aujourd'hui.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Je suis technicien hospitalier à l'hôpital Robert d'Evreux.
Je ne sais pas comment sont les maréchaux, j'espère qu'ils roulent à peu près. Pour le moment, ça va. Hein.
Moi, je ne cours jamais après le temps.
Ouais.
Il faut laisser le temps s'écouler et aller à son rythme. Il n'y a que des gens pressés, madame. On voit bien que vous avez le GPS dans la tête. Hein.
Ah bah oui, c'est ça.
Ça, c'est très vieux. Quand on est taxi, il faut bien connaître les petits astuces qui font gagner au client quelques minutes, quelques secondes.
Ça compte. Plus on arrive vite, plus je suis contente.
Voilà. Télé. Merci, madame.
Merci.
Bonne continuation.
Bonne journée. Bon, on va prendre le périph' pour te montrer vers l'ouest, puisqu'il roule.
Ça, c'est une belle bagnole.
Des fleurs.
T'as un beau motif sur les housses. Merci, monsieur. Et ce squelette-là, il est marron. Ça, oh, c'est un héritage. C'est ton grand-père ? Vous voulez vraiment savoir ? Ouais. Je suis en forme ce soir, je veux bien vous raconter. Alors moi, je suis taxi parce que je tiens pas en place. Cette famille, l'aventure dans le sang, le poivre dans le cul... Voilà, la mienne, c'est pareil. Ah, donc, vous savez que c'est pas toujours une bénédiction. Vous connaissez Bancroft & Lovell, les cigarettes ? Bas de gamme. Figurez-vous que moi, je descends de Sir Henry Lovell et le Lovell de Bancroft and Lovell, lignée directe. Cette histoire commence un siècle avant que Philip Morris rachète Bancroft and Lovell et se mette à produire de la merde. À cette époque, le jeune Henry n'était pas encore Sir Lovell, mais juste un jeune débrouillard, toujours en quête d'aventure et de combine, qui en soufflant ici et là avait réussi à entrer à Oxford. C'est là qu'il avait rencontré le jeune Lord Bancroft, dernier bourgeon de la dernière branche d'une grande lignée. Et Bancroft, faut imaginer, un faux air de prince Charles, pâle et maladroit, c'est à peine s'il savait faire ses lacets. Poète amateur, botaniste amateur, jamais sorti de son jardin et sans doute encore vierge, bref, l'inverse de Henry, dont il admirait la vigueur, il s'entendait super bien. Et Lovell, il ressemblait à quoi? Bah à moi, mais en kaki.
Au plus loin de chez moi, taxi, emmenez-moi. Loin des rêves perdus, sur une autre avenue, taxi, perdez-moi.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux.
Tu sais combien je ne savais plus le chemin qu'il me fallait éclairer l'avenue. Oui, toi tu sais, j'ai levé la main, tu m'as vu juste un peu plus près. Je reviens vers qui j'étais. Taxi, emmenez-moi au plus loin.
Brad Stevens, on entend après la musique un extrait des Rigoles, donc cette bande dessinée publiée chez Actes Sud dont on parle depuis tout à l'heure, et j'ai essayé de lire le plus rapidement possible et de manière la plus relâchée une conversation qui a lieu dans un taxi. Je l'ai lu sur un extrait des Pieds sur Terre produit par Jérôme Sandler, ce qui était consacré aussi à une figure de taxi, parce que finalement cette figure de chauffeur de taxi revient à plusieurs reprises dans La Nuit des Rigoles, et elle a un statut un peu particulier, cette figure-là. C'est une figure qui raconte beaucoup d'histoires, qui raconte souvent exactement la même histoire, mais pas complètement. Comment l'avez-vous décidé, ce personnage ?
Je suis d'ailleurs super. Ça me fait super plaisir que tu le lis, parce que c'est peut-être un des risques pris dans le livre d'avoir soudainement tant de texte qui n'est pas connecté explicitement au reste du livre. C'est le risque Blake et Mortimer, éventuellement, d'avoir un peu trop de texte pour un BD. Mais là, apparemment...
Pourquoi c'est un risque d'avoir trop de texte pour la BD ?
En tout cas, c'était toujours un peu la blague avec Blake et Mortimer, qu'il y avait trop de texte dans les cases. Mais là...
Et que quoi ? Qu'on s'ennuie, que la BD c'est pas fait pour lire, que le texte c'est
ça.
Difficile à écrire ?
Ouais, c'est ce que tu dis. Là, c'est quand même un BD pour des gens qui aiment lire du texte aussi, je crois. Et ce qu'elle vient faire, là, ce qu'elle fait, c'est... Chaque fois, on la pose la même question. Qu'est-ce qu'il fait, là, cette squelette qui pendouille? Et elle improvise toute une autre histoire pour expliquer ça. Et ça fait comme... ça fait entrer des contes dans le livre qui sont carrément l'aventure, parce que comme les personnages passent tant de temps à chasser l'aventure sans succès,
aussi à la chercher, cette aventure. Ouais
j'aurais pu appeler le livre l'aventure si ça faisait pas un petit peu bidon. Elle vient mettre, genre, nous rappeler ce que c'est l'aventure, ce à quoi on croit quand on, ce qu'on croit que c'est, l'aventure. elle vient nous amener, sortir un peu du quotidien, nous montrer la vie haute en couleur, quoi. Genre, une bonne aventure, il se passe beaucoup et c'est résumé en peu de temps. C'est ça qu'elle vient amener.
Comme dans les contes, en fait. Beaucoup d'aventures, peu de temps. Je disais en introduction, Brecht Evans, que les êtres qui sont pas complètement solides sur leurs pieds, dans ce livre-là, souvent on les remet sur pied, on leur redonne de la force, ou du sourire, ou de l'élan pour traverser la nuit, en leur racontant des histoires. Moi, j'ai vraiment eu l'impression aussi de lire une sorte de mille et une nuits avec plein de Sherazade. Quand ça va pas, on est à la porte des toilettes pour raconter une histoire à la fille qu'on a envie de tenir à bout de bras, ouais. Ou même quand on rejoint l'un des personnages et rejoint par une amie, bah finalement, on a vraiment l'impression qu'elle lui redonne, je sais pas, de la nourriture ou de la force en lui racontant aussi des histoires, comme si la force c'était ça, quoi.
Oui, c'est
plein
vrai
de Sherazade.
C'est vrai que ça a un effet envigorant sur les personnages. Il y a la première fois qu'elle le fait, le personnage vient juste de changer un petit peu d'humeur, vient juste de reprendre force justement et juste tout de suite entendre une histoire d'aventure, ça lui pousse encore plus dans cette direction. C'est le personnage dépressif. C'est pendant un moment, il a dû passer déjà des mois à pas savoir écouter et apprécier les histoires. C'est difficile de être intéressé par autre chose que soi-même quand on est dépressif. Et je me souviens quand j'en suis sorti que soudainement tout ce que les gens disaient redevenait intéressant et ça redevenait des trucs à contempler et à essayer de se mettre dans l'histoire ou à noter dans des petits carnets. Ouais, c'était la vie qui retournait d'abord en ayant envie d'écouter des gens et de noter et se souvenir de ce qu'ils disaient. Donc là, avec lui, c'est l'histoire, c'est comme ça, c'est quelque chose qui lui donne du vigueur. Et avec un autre personnage, à un moment, c'est pur escapisme. Un autre personnage, à un moment, n'est pas si sûr que... Ouais, elle n'est pas si sûre, finalement, qu'elle est prête à l'aventure. Et pour elle, c'est peut-être un truc plus une berceuse qu'une mission, qu'un truc envigorant.
Il y a d'autres récits qui existent dans ce texte. Ce sont des récits de rêve et qui font entrer d'autres mondes encore. Donc il y a les contes racontés par cette chauffeur de taxi, et puis il y a les conversations, et puis dans ces conversations, comme des petits tiroirs qui s'ouvrent et qui s'ouvrent et qui s'ouvrent,
ça, c'est bien
il y a
dit,
des récits de rêves. Et c'est pas la première fois, Brecht Evans, que vous utilisez cet espace des rêves, parce que ça vous permet d'appeler des mondes encore plus complexes, encore plus riches. Vous leur donnez quoi comme statut à ces récits-là? Ils vous permettent quoi?
Tous les différents genres de tiroirs, les différents genres d'histoires qui entrent, ou spécifiquement les rêves?
Les rêves.
Je crois qu'au premier niveau, la fonction qui est à ce dialogue, c'est que la personne qui raconte le rêve se fait interrompre tout le temps. Et c'est comme une sorte... presque un monotone contre lequel les autres personnages commencent à se définir, des personnages qu'on ne connaisse pas encore, parce qu'on rencontre quatre personnages dans cette conversation. Et dans ce cas de cette scène-là, c'est plus la réaction des gens qui m'intéressent ou qui sont importants que ce qu'ils racontent. En vrai, quelqu'un qui raconte une rêve, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais ça peut être très long. Et du coup, son public rebelle un peu contre ça.
Est-ce que passer par le rêve, c'est aussi la possibilité de déformer, de ne pas nécessairement être pieds et mains liés à ce qu'on appelle le réel, de pouvoir dire que, je sais pas, introduire des visions, introduire d'autres mondes, d'autres formes, d'autres créatures. Est-ce que c'est aussi cette possibilité-là?
Je crois que oui, quand il y a cette scène, ça nous donne pendant un moment des bizarres images. Pendant un moment dans le livre où on voit beaucoup juste les gens qui parlent. C'est comme si ça présage des bizarreries. Je suis pas sûr que les rêves influencent mon écriture. Je crois que il y a beaucoup de, je sais pas si le mot visionnaire est correct. En tout cas, des choses, des scènes de vision, des trucs un peu pas tout à fait paranormal, mais des choses qu'on voit juste très intensement, soudainement, et du coup, ils prennent un air biblique ou d'une autre époque ou d'une peinture.
Ça n'a peut-être rien à voir avec les rêves.
Mais c'est ça, parce que c'est plus quand ces choses me sont passées dans éveillé que ça m'intéresse à montrer, je suppose.
Et ça fonctionne comme ça, ça fonctionne comme des sortes d'apparitions, parce que je parlais du réel, mais y compris lorsque vous peignez le réel ou vous l'écrivez, Brecht Evans, que vous racontez cette nuit-là, ça prend des atours particuliers, ça prend des couleurs, ça prend des substances.
Oui,
des
ça matières, vibre beaucoup.
Ça vibre beaucoup. Et ça vous apparaît, c'est des choses qui vous apparaissent furtivement, que vous attrapez, comment ça fonctionne?
Je suppose que déjà dans mon année sabbatique j'ai plutôt eu pas mal de visions. C'est la bipolarité, c'est les deux côtés, c'est la dépression puis qui a basculé en manie, ce qui a été un magnifique et très dangereuse vacances de ma propre personnalité. Et il y a absolument des moments que j'ai vécu là-dedans que je veux capter, des moments qui sont vraiment sans parole. Ils ont tendance à arriver quand j'en ai besoin dans l'écriture. L'écriture, c'est toujours croquis et texte en même temps. C'est comme ça qu'on est censé faire un BD, je crois. Je voudrais pas illustrer un scénario parce que je me sentirais un illustrateur. Comme tout est créé en même temps et quand j'ai besoin de quelque chose, d'une vision, ça a tendance à venir.
Tout le temps. Elles sont tout le temps là au rendez-vous.
Ouais. Dans ce livre, j'ai dû plutôt supprimer des pages visionnaires plutôt que d'en trouver. Pour qu'on s'arrête pas tout le temps sur des trucs comment dire, plus hauts que notre quotidien. On avait besoin de pas mal de quotidien pour mériter ces moments transcendants.
Combien de couleurs vous travaillez?
Je travaille avec 4-5 couleurs, tout au plus. Mais ça, c'est en faisant les tissus que j'ai appris. J'ai appris à limiter le nombre des couleurs et ça n'est qu'une qualité. Ça donne plus de force à la couleur.
s'est transformé en image. Et on parle de caméra obscura, c'est-à-dire le cerveau, il y a une image qui se forme. Pour attraper cette image, il y a certains artistes qui utilisent des moyens. Donc l'architecte dessine le plan, ou bien la forme qu'il a imaginée dans l'espace urbain. Le photographe utilise l'appareil photo. Et ça fait maintenant plus de 30 ans que j'utilise, mais comme beaucoup d'artistes, en fin de compte, font des esquisses, disons. Hein. Il y a beaucoup de vécu dans les aquarelles de mes installations. C'est là où je sépare entre les projets aquarellés pour le futur et aussi les aquarelles. Moi, je pense que le drame des aquarelles, c'est quand ce mouvement qui est lancé, tu penses que ça ne va plus s'arrêter, l'eau s'évapore et se fixe, se fige et se momifie. Je crois que le drame arrive à ce moment-là. Parce que si je fais des aquarelles où il y a beaucoup de feu, on sait très bien que ce n'est pas avec le feu que tu fais, avec l'eau froide que tu dessines, et que le contraste qu'il y a entre donc, cette image rouge qui représente le feu, en fin de compte, est faite avec l'eau froide. C'est ce contraste-là.
C'est la voix de l'artiste Sarkis qui répond à celle plus lointaine de Sonia Delaunay. Ici, il est au micro de France Culture en 2001 pour l'émission Peinture Fraîche. Brecht Evans, on parle avec vous de cet album Les Rigoles, paru chez Actes Sud dans cette rentrée. Vous reprenez avec cet album une technique que vous utilisez souvent, sinon je voudrais dire depuis toujours en fait, depuis tous les albums que je connais en tout cas. Et, ouais. Et je voudrais qu'on en parle peut-être à partir des mots de Sarkis. Par exemple, quand il dit le drame pour l'aquarelle, c'est quand d'un seul coup ça se fige. Peut-être sur le choix de cette technique-là, pourquoi ?
Je voudrais pas travailler avec un matériel où je pourrais vraiment corriger mes erreurs. Il faut l'aquarelle a bien fonctionné pour moi parce que c'est pas super facile à contrôler.
C'est pas super facile.
Ouais, voilà. Quand je commence à la maîtriser trop, faut me saboter de nouveau pour que le dessin capte l'œil, soit intéressant. Il faut qu'il y a plein de petits accidents dedans. Parce que les accidents vont souvent être un peu plus intéressants que ce que j'aurais pu inventer. Il y a pas mal de dans des dessins où il y a plein de détails, il y a pas mal de petits presque formes qui seraient comme si on serait en vrai dans un lieu compliqué où il se passe beaucoup. On apercevrait plein de formes qu'on n'aurait pas le temps de vraiment savoir ce que c'est. Ou plein de petites textures, des moments. Donc pour qu'un dessin approche la complexité de ce qu'on verrait en vrai, en pouvant regarder autour, c'est pas mal s'il y a plein de petits accidents dedans.
Finalement, l'aquarelle, c'est ce qui vous semble le plus vivant, ou capable de rendre le plus la vibration du vivant.
Aussi la lumière, parce que ça utilise le blanc du papier. Pour, et c'est pas du couleur mis en pâté sur du foncé. C'est quand je fais de lumière, c'est que j'ai dû faire du foncé autour. Ça a l'air vachement plus lumineux déjà.
Je crois que c'est Sarkis dans cet archive qui dit que l'aquarelle c'est toutes les lumières en même temps. Ça peut faire exister toutes les lumières en même temps.
Ouais, je fais aussi les deux. Je fais pas que le contre-forme, comme on dit. Tout est pas mécaniquement bâti de clair à foncé. Après, je reviens sur le foncé. Je reviens avec des crayons et des feutres et des autres outils. Ça fait effectivement depuis les noceurs, depuis 10 ans que je bosse comme ça. Je cherchais à avoir à mélanger plein de matériaux, mais l'aquarelle domine pour avoir plusieurs textures différentes. Si quelqu'un porte un manteau en tissu, c'est autre chose que le pierre d'un bâtiment ou de quoi on fait les bagnoles déjà, en fait. Tout ça, c'est différentes textures. Les chairs sont différentes aussi.
Sonia Delaunay, elle disait, plus mon travail a avancé, et plus j'ai réduit le nombre de couleurs que j'ai utilisées dans mes aquarelles, dans ma peinture, et finalement, c'est une bonne chose.
Oui, je comprends. Si on veut avoir vraiment des couleurs, il y a un moment, si tu continues à rajouter des couleurs différentes, tu t'approches de plus en plus du brun. Si tu t'éloignerais beaucoup d'une image avec plein de différentes couleurs dedans, ça serait un effet gris ou brun, je crois. Du coup, moi, j'ai commencé à maîtriser l'aquarelle en faisant ça, en limitant les couleurs comme quand on fait la sérigraphie et on doit penser en couches. Mais en la maîtrisant de plus en plus, j'ai gagné le mérité d'utiliser plus de couleurs. Parce que je crois que je sais ce que je fais quand je le fais. Et je sais quand il y a une couleur en trop que je dois l'enlever de nouveau.
C'est un album qui est très foisonnant, on l'a dit, c'est beaucoup la nuit, beaucoup la vie de la nuit, les lieux de la nuit, et qui se termine dans une économie de paroles, dans des présences d'êtres quasiment... on ne sait même plus où ils sont, s'ils sont vraiment présents, s'ils sont vraiment réels, voire jusqu'à la brume et leur propre disparition. C'était étonnant pour moi, en tant que lectrice, d'avoir été plongée dans tant de bruit, tant de foule, tant aussi de vagues à l'âme, de dureté, d'un seul coup, d'être comme ça, presque sur une île si calme.
Je crois qu'à un moment, on est essoufflé de tout ça et on arrive dans une scène qui a une grande respiration, et que plus on s'approche vraiment des dernières pages, je crois que cette respiration commence à prendre de la vitesse de nouveau, comme c'est une sorte, on sent vers la fin, je crois aussi, au moins en tout cas, le chaos, mais quand le livre finit, c'est pas encore arrivé, mais on sent que on n'en a pas fini avec la ville. On sent qu'on n'a pas fini avec le chaos, là, vers la fin.
Vous disiez que c'était un livre qui vous avait permis de, sinon régler vos comptes, en tout cas de faire un album grand frère à un album fait il y a 10 ans qui s'appelle Les Nos Sœurs. Est-ce que c'est un livre qui vous a permis de reprendre votre souffle et de peut-être aller vers autre part? La fin de l'album, on a l'impression d'un possible départ vers quelque chose de vraiment nouveau.
Ouais. Ouais, il y a vraiment une ambiance dans la dernière scène pour moi aussi, où il y a une ambiance de « ça c'est fait, et quoi maintenant ?» J'ai commencé à faire ceci quand je revenais, quand je regagnais mes forces. Après avoir été hors service pendant tant de temps, comme je disais, ça commençait avec de nouveau entendre parler les gens, être intéressé par ce qu'ils disaient. Et c'est comme si c'était inévitable que je finirais par célébrer ça avec un gros pavé maximaliste qui veut capter, enregistrer.
Tout ce qui se vit.
Oui, c'est une grande célébration de la vie avec des personnages qui ont un petit peu de difficulté à vraiment le célébrer. Mais ça la rend d'autant plus festif.
Oui, puis d'une certaine manière, ça les concerne eux, les personnages, c'est pas vous.
Ouais, exactement. Et pas le lecteur non plus.
Et pas le lecteur non plus, c'est ça qui est chouette avec la fiction. Brecht Stevens, merci beaucoup. Votre album Les Rigoles, c'est magnifique. Il est publié aux éditions Actes Sud. J'ai dit tout à l'heure que ça vous lançait sur les routes de je sais pas combien de librairies de France et de Navarre. Vous allez faire quoi? Vous allez faire des dessins sur vos albums aux gens en buvant des verres?
Oui, exactement. En buvant un café d'abord, et puis ça passe au vin. Oui, je vais peindre dans vos livres si vous venez, avec grand plaisir.
Le 1er septembre à la librairie Gilbert Joseph, c'est à Barbès, c'est à Paris. Le 2 à la librairie du Parc de la Villette. Le 6 à la librairie Le Comptoir des Mots. Le 7 à la librairie Super-Héros, l'atelier Le Monde en l'air. Tout ça, on mettra sur le site internet de l'émission.
Et surtout peut-être l'expo à la Galerie Martel fin octobre, parce qu'il y a quelque chose avec les originaux de tout ça. C'est pas fait sur ordi, évidemment.
À Paris.
Qui est impossible à capter en impression.
Shake your hair, shake your arms, shake your nipples, shake your bones. Put it in the bagel, go eat it up. Now flap your wings like a big old birdie. Bow, wow, wow, wow. Like a ragged doggy, come in and sweat with me. Coming in with me, let your tongue slip.
Ce soir au son, c'était Déborah Dagobert à la réalisation Lise-Marie Barré. Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h et quand vous voulez sur franceculture.fr en réécoute ou en podcast auquel vous pouvez vous abonner. Je vous souhaite une très belle soirée et je remercie Jeanne Aléos, Marianne Chassor et Laure Chastan qui pensent et préparent cette émission avec moi. Hypnotize you. We're getting wild. We're getting horny. Inside the tunnel, we're getting lonely. I'm an octopus, gonna capture you. I stick your bodies, thanks to super glue. What is important? N'importe quoi. What is important? N'importe quoi. Your nude, put you in the sands of mood. Go, go, go!